Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureuses et heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire consacré au spectacle vivant Tonnerre de Brecht. Et je suis avec Martin, bonjour Martin.
Bonjour Léa, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que cette semaine nous partons pour un voyage dans le temps et dans les âges.
Nous traverserons les siècles en compagnie d'Inès Cassignol qui viendra nous parler de sa nouvelle création Vierge Maudite.
Et nos pérégrinations nous emmèneront dans des paysages plus intimes et personnels avec le spectacle Ça n'existe pas de Juliette Dozé.
Mais avant tout cela, passage obligé avant de monter dans notre time machine, les actus.
À partir de ce soir, 20h au Théâtre National de Bretagne, vous pourrez assister à la nouvelle création de Thiago Rodriguez. Avec, dans la mesure de l'impossible, le metteur en scène témoigne d'un monde qui côtoie le chaos. En menant une série d'entretiens avec des personnes engagées dans l'action humanitaire, il en a tiré un projet intimiste mais universel qui rend compte des désastres collectifs. Ici c'est la guerre, là la misère, ailleurs l'exclusion. Ce théâtre d'une grande sincérité met l'urgence à distance, ce qui est la meilleure manière de la donner à voir. Dans la mesure de l'impossible, un spectacle de Thiago Rodriguez à voir au TNB jusqu'au 5 mars.
Et le 4 mars prochain, La Paillette organise sa troisième soirée extra. Extra Festival d'un soir vous invite à découvrir tout le dynamisme de la création théâtrale contemporaine autour d'étapes de travail ou de formes finies peu vues en France. Pilote Fishies nous invite à plonger au cœur des contrats d'assurance, réels ou fantasmés, avec sa performance dansée Life Insurances. Avec la compagnie SPPI, il sera question de Kinderspeed 2000, une exploration dans le monde mystérieux des débutants en BMX, Santiago et musique électronique. Et enfin, on retrouvera Cyril Olivier de l'Unanime pour un seul en scène qui questionne l'essentiel et qui s'intitule « De façon générale ». Tout ce beau programme est à retrouver à La Paillette le 3 mars 2022 à partir de 20h.
Et enfin, à la station théâtre de la Mézière se jouera les 4 et 5 mars le spectacle Ridiculum Vitae. Si vous avez vu la clown seule il y a 2 saisons au théâtre, vous retrouverez avec plaisir la comédienne Marie Thomas dans un tout autre registre. Elle revient avec le spectacle Ridiculum Vitae. Elle sera accompagnée d'un piano pour continuer à nous faire rire, puisque pour elle, le rire est un plaisir des yeux et de la bouche, comme si on mangeait de la joie. Ridiculum Vitae à retrouver à la station Théâtre de la Mézière les 4 et 5 mars prochains, dès 20h.
Mais avant toute chose, Martin, tu as rencontré Inès Cassignol pour sa nouvelle création Vierge Maudite, dans laquelle nous assistons à une version de l'histoire d'Hélène Astola, vierge morte d'amour pour Lancelot du Lac. Elle ressuscite ce personnage en prenant de la distance avec le texte ancien. Mais écoutons Inès qui nous en parlera bien mieux.
Vierge Maudite, c'est un récit en scène qui réécrit la légende d'Hélène d'Astola. La matière des légendes, elle est faite de réécriture, donc il y a différentes versions déjà depuis le 15e siècle, même peut-être avant, jusqu'au 19e siècle. Et la version sur laquelle je m'appuie, bah, c'est moi qui l'ai écrite. Mais j'ai mis en place une stratégie narrative qui s'appelle la supercherie littéraire. Et du coup, j'attribue mon récit à une jeune fille poète du 19e siècle qui s'appelle Elizabeth Brown. Donc c'est un peu mon avatar du 19e siècle. Et c'est une réponse, par contre ça c'est précis et datable et associable à un auteur. C'est en réponse à la dernière version en date qui a été écrite par Alfred Lord Tennyson, qui est un poète victorien, qui était le poète lauréat de la reine Victoria, et qui a écrit un poème « The Lady of Shalott », « La Dame de Shalott », qui reprend la légende d'Hélène sous un angle très victorien, à savoir la jeune fille maudite qui ne peut pas sortir de sa tour et qui meurt de sortir dans le monde extérieur. Bon, c'est une lecture, une certaine lecture, on peut faire d'autres lectures de ce poème, et c'est celle que j'ai faite, et du coup c'est en réaction à cette réécriture.
Pourquoi avoir choisi comme scénographie du spectacle des grandes broderies représentant un jeu de loi et une carte géographique de la conquête ?
C'est un choix qui s'est fait pendant l'écriture. En fait, alors que donc, je travaillais sur une version de La Légende d'Hélène, j'ai rencontré Muriel Frey, qui est brodeuse. On parlait de l'histoire, du fait qu'Hélène brode, et c'est Muriel qui m'a donné l'idée de broder le jeu de loi, la tapisserie du jeu de loi. Et c'est grâce à Muriel, qui avait le savoir-faire technique, qu'on a pu projeter la confection d'un ouvrage aussi ambitieux, qui fait 3,10 m par 2,60 m. Et donc, à partir de là, ça s'est concrétisé, et évidemment, ça fait partie du spectacle. Il y a donc deux broderies, la tapisserie du jeu de loi, qui elle fait partie de la fiction, puisque c'est un ouvrage que brode Hélène, donc elle a un statut d'objet imaginaire, et un peu comme l'épée du roi Arthur. Ça participe de la magie de l'histoire et du fait que c'est un récit initiatique fantastique. Et le fait d'avoir une deuxième broderie, donc la broderie de la conquête d'Hélène, qui elle, c'est la carte géographique du parcours d'Hélène, elle est en train d'être confectionnée. Les brodeuses sont en scène. Donc ça, il y a plusieurs enjeux d'avoir cet ouvrage en cours sur scène. Déjà, c'est une métaphore de la réécriture que j'ai faite, de broder, je brode, j'invente un truc, je réécris un peu l'histoire, voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Je change, je fais une variation sur un motif aussi. Donc il y a plein de mots comme ça qu'on peut retrouver. Donc il y a cet intérêt-là, et puis c'est aussi une façon d'imager l'histoire et d'avoir des repères visuels, vu que dans la réécriture que j'ai faite, je convoque des images assez fortes par le biais de l'allégorie. C'est un style de narration un peu médiéval. Par exemple, Hélène traverse la forêt de longue attente, elle traverse le fleuve de l'absence. Enfin, il y a toute une géographie comme ça. C'était aussi pour ça qu'on a fait une carte. Et c'est aussi inspiré de la carte du Tendre, qui est un ouvrage assez connu dans l'histoire littéraire française. Créée par Madeleine de Scudéry. Du coup, la carte du Tendre serait un parcours amoureux sous forme d'un paysage allégorique. Et donc ça reprend ça. Et du coup, ces images et ces allégories, c'était important qu'elles soient visibles sur scène.
Tu en as déjà un peu parlé, mais il y a deux artistes qui t'ont aidé, qui ont imaginé la tapisserie du jeu de loi et la broderie de la conquête. Qui sont-ils ?
Pour la tapisserie du jeu de loi, l'illustratrice s'appelle Sophie Guérive. Donc c'est une illustratrice de bande dessinée. C'est mon prof de littérature médiévale qui m'avait conseillé de la contacter parce qu'elle a écrit tout un livre inspiré d'imagerie médiévale. En fait, les choses sont allées assez vite. Quand, avec Muriel, on s'est dit qu'on allait faire la broderie. Du coup, je l'ai contactée, elle a accepté. On ne s'est jamais rencontrés, mais elle a fait vraiment un dessin magnifique qui est vraiment parfait par rapport au projet parce qu'il y a à la fois un aspect contemporain mais plein de codes illustratifs empruntés à des cartes anciennes, le motif de jeu de loi qui est aussi très codifié. Et pour la carte de la conquête d'Hélène, c'est un illustrateur qui s'appelle Pierre Massé qui habite pas loin de Rennes.
Quel est le sens de vouloir recomposer en direct l'histoire d'Hélène lors de la représentation ?
Le récit que je déploie du coup sur scène développe d'une part l'histoire d'Hélène et d'autre part je remonte le fil de ces autrices imaginaires que j'ai inventées. Je raconte que j'ai trouvé une histoire qui a été déjà trouvée et du coup il y a un récit parallèle qui est celle d'une transmission impossible d'un récit. Au fil de l'histoire, en fait, il y a quelque chose effectivement qui se recompose entre l'histoire d'Hélène, qui est d'emblée présentée comme une histoire méconnue et oubliée, l'histoire de la confection de la broderie et la reconstitution de la transmission, en fait, qui a été empêchée. Ça travaille aussi le fait que la question de l'invisibilisation et de la... Et la façon dont beaucoup d'autrices ont été réduites au silence, ça interroge la façon dont on peut transmettre des histoires et comment on peut réimaginer des histoires du passé. Enfin, je me disais, est-ce qu'au XIXe siècle, une jeune fille a imaginé une autre histoire d'Hélène ? Et c'est possible, voilà. Du coup, je suis partie de là, en fait, et du coup, c'est un peu une sorte de réparation que j'essaie de faire. Et du coup, c'est pour ça, y a un côté un peu de recréer un peu un nouveau corps, quoi.
Si je comprends bien, depuis le début, on va voir la broderie en train de se faire sur scène. Quand la broderie de la conquête sera terminée, Est-ce que la tournée du spectacle s'achèvera aussi?
Ça, c'est une très bonne question. Alors, on voit la broderie être faite sur scène. Oui, mais après, la broderie, c'est pas du tout spectaculaire comme activité. C'est miniature, hyper lent, presque immobile. Il n'y a pas de système optique qui permet d'agrandir ou quoi. Donc, c'est surtout les brodeuses qu'on voit à l'ouvrage, un groupe de brodeuses. Mais on voit quand même une partie de l'ouvrage qui a été réalisé. A priori, j'aimerais adapter au fur et à mesure le spectacle selon l'avancée de l'ouvrage. Et je ne pense pas que le spectacle soit impossible à reconvoquer si la broderie est terminée, mais je pense qu'il faudra trouver un autre biais, en fait. Et ça, c'est l'avantage des narrations, c'est qu'on peut facilement les adapter, en fait. On peut les retourner un peu dans tous les sens qu'on veut, quoi. Pour le moment, la question ne se pose pas trop, parce que c'est lent et on en est au milieu. Mais si jamais on doit faire une tournée internationale et que la question se pose, on verra comment s'adapter, quoi. Mais c'est vrai que c'est fort aussi d'avoir cet ouvrage en cours, oui.
Et les brodeuses qui sont sur scène avec ça, on remarque que le public a une place très importante au sein du spectacle. Puis en plus, elles peuvent se joindre au récit en brodant et en lisant des extraits. Pourquoi le collectif est si important pour toi dans la création ?
C'est une façon de restituer la vérité de la confection, par exemple, de la tapisserie du jeu de loi. En fait, beaucoup, beaucoup de mains et de personnes sont derrière cet ouvrage. Et du coup, le fait de leur proposer d'être là en scène, c'était pour se rapprocher de la vérité de la confection du projet, en fait, la création du projet. Et puis aussi d'amener une part de collectif autour d'un récit ancien que beaucoup de gens connaissent. Je trouve que ça a du sens parce que c'est un commun, enfin, la matière bretonne, les cycles arthuriens, tout ça, c'est des histoires que tout le monde, que beaucoup de gens connaissent. Et il y a aussi le fait que dans l'histoire d'Hélène, il est question de vierges maudites au pluriel et de plusieurs femmes, jeunes filles. Et du coup, le fait de aussi retrouver plusieurs femmes, jeunes femmes sur scène, ça fait sens.
Et en parallèle des spectacles, souvent, il y a des ateliers pédagogiques où tu les amènes broder. Et quel est le contenu de ces ateliers avec les brodeurs et les brodeuses? Est-ce qu'il y en aura d'autres bientôt?
Oui, effectivement, dans les ateliers qu'on fait, ça dépend du format d'atelier. Si c'est un atelier court, on est vraiment on raconte notre façon de travailler, cette histoire-là d'Hélène et l'ouvrage qu'on est en train de faire. Et on transmet des points de base. En fait, la broderie qu'on fait, c'est vraiment des points de base qu'on utilise. Simple à transmettre. En 2 heures, on peut en apprendre au moins 1 sur 2. Donc, on fait un peu ce travail-là. Donc, c'est pas, on n'est pas dans une forme de broderie d'excellence ou d'artisanat, comme pourrait le faire une brodeuse professionnelle. Voilà. Nous, on est à un endroit on est sur les premiers pas. Et après, en même temps, dans les ateliers, il y a plein de femmes qui brodent déjà très bien qui viennent. Et sinon, il y a une autre forme d'atelier où là, on va vers ensemble dans la création du spectacle. Donc, il y a cette part de transmission. Et en même temps, on répète ensemble. Donc, on est entre deux. Et est-ce qu'il va y en avoir bientôt? Normalement, sur la saison prochaine, oui, il y a des choses qui se dessinent.
Merci beaucoup, Inès.
Avec plaisir.
On te retrouve les 26 et 25 février pour la création de Vierge Maudite.
Et le 27 février à l'Écomusée de la Bintinée avec les tombées de la nuit.
Thank you.
C'était Our Earth Condemn Us de Joseph Van Wissem. Vous êtes toujours sur Syllab dans votre émission Tonnerre de Brecht. Merci Inès Cassignol d'avoir répondu à nos questions. On te retrouve sur scène dans ton spectacle Vierge Maudite, dimanche 27 février à 14h30 et 17h à l'écomusée de la Vintinée.
Sans perdre une minute, on enchaîne avec Juliette Dozé qui nous a parlé de son spectacle « Ça n'existe pas », un spectacle qui creuse toutes nos croyances d'enfants démenties à l'âge adulte. D'ailleurs, qui nous dit que c'est eux qui ont tort et pas nous? C'est justement ce qu'interroge avec humour la compagnie Akazoar dont Juliette Dozé est la metteuse en scène.
Juliette Dozé, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Tonnerre de Brecht. On se rencontre aujourd'hui pour ta prochaine création qui s'intitule « Ça n'existe pas » et qui se jouera vendredi 25 février au Zéphyr à Château-Giron à 19h30. Ce spectacle nous plonge dans un univers enfantin peuplé de personnages imaginaires hauts en couleur. L'interrogation centrale du spectacle est la suivante. Comment l'enfant perçoit le monde qui l'entoure et comment y répond-il par son imaginaire? Qu'est-ce qui t'a inspiré cette question?
Il y a eu un moment donné où je me suis sentie devenir adulte et je me suis rendu compte que j'avais du mal à me rappeler de comment je pensais quand j'étais enfant. Et plus je voyais les enfants autour de moi, quand j'allais m'occuper des petites filles au babysitting ou ma nièce, qu'ils n'ont pas du tout le même fonctionnement ou la même manière de percevoir le monde qui les entoure. Et qu'ils ont tendance aussi à y mettre énormément d'imaginaire, à raconter des histoires et à vouloir... que les histoires, elles grandissent et qu'elles sortent un peu du réel. Et ça m'a toujours fascinée. Et moi, déjà, quand j'étais petite aussi, j'avais une tendance à toujours avoir un monde imaginaire très développé. Et en devenant adulte, à me rapprocher du réel. Et ça m'a un petit peu fait peur. Et je me suis dit que c'était une bonne manière de percevoir le monde, d'y mettre de l'imaginaire et juste de s'amuser, de se dire... Par exemple, je passe par un petit chemin qui fait peur. Au lieu de me dire « Ok, je ne me sens pas bien dans ce petit chemin », je vais me dire « C'est le chemin des sorcières ». Et là, au fond, il y a une maison cachée où je vais pouvoir parler avec une sorcière. Et peut-être tu traverses le chemin plus facilement comme ça parce que tu y mets une histoire qui peut être rassurante, qui déforme un peu la réalité, mais qui fait du bien.
Parmi les inspirations du spectacle, il y a Françoise Dolto qui a écrit que l'enfant jusqu'à 6 ans confond ce qui est du ressort de l'imagination et de la réalité qui l'entoure. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la volonté de saisir cette porosité entre cette imagination de l'enfant et la réalité?
J'ai trouvé que c'était une bonne manière de raconter les choses plus facilement. Quand on pense à l'enfance, c'est pas forcément toujours très joyeux. Il y a aussi des gens qui ont une enfance très difficile, qui sont confrontés à beaucoup de problèmes familiaux, sociaux. Je pense que l'imaginaire à raconter permet d'aller plus largement et plus facilement à atteindre un sujet. Dans le spectacle, à un moment donné, il y a une petite fille qui joue avec ses poupées et qui rêve d'une famille un peu parfaite avec une maman qui s'occupe de son frère et d'elle, par exemple. Et en fait, on se rend compte à la fin de la scène que c'est pas du tout la réalité de sa situation et que en fait elle a pas de papa, donc la maman elle s'en occupe toute seule et que c'est compliqué parce que la maman elle est sur plusieurs fronts en même temps. Et raconter par le biais de l'imaginaire de poupées qui s'activent et qui vivent leur vie, je trouve que ça a un côté poétique déjà, et c'est peut-être aussi plus facile de parler de traumatisme en passant par l'imaginaire, puisque c'est un spectacle qui peut être aussi dédié aux scolaires, aux enfants, et peut-être que voilà. Il y a aussi une autre scène où on parle de violence, on va dire, familiale, avec peut-être un papa ou une maman qui frappe son enfant. Et dans toute cette scène, l'enfant, il va parler un peu d'autre chose que de ce moment où il se fait frapper, mais par terre, il s'est constitué de carrelage, de losanges, de carrés, et ça va lui permettre de penser à autre chose. Et en même temps, nous, ça nous permet de raconter aussi cette histoire de violence familiale.
Crois-tu que notre imaginaire d'adulte se percute à nos souvenirs d'enfance et les modifie?
Oui, c'est sûr. Parce que je ne sais plus quand je discutais avec ma mère d'un souvenir que j'avais eu sur une histoire toute bête, du genre, je lui racontais qu'au collège, quand notre professeur de français avait demandé c'était qui le plus grand auteur du monde et qu'elle avait écrit Shakespeare. Donc j'ai raconté ça à ma mère, que cette prof avait dit que c'était Shakespeare. Et ma mère m'a regardée, elle m'a dit c'est incroyable parce que cette histoire, c'est moi qui l'ai vécue. Et à un moment donné, je la regarde, je dis « Ah bon, c'est toi, maman, qui m'a raconté cette histoire et c'est pas moi qui l'ai vécue ?» Et elle me disait, bah non, non, c'est une histoire que je t'ai racontée quand t'étais petite, qui m'était arrivée. Et en fait, moi, j'ai absorbé son souvenir. Donc, tout ça pour dire que les souvenirs qu'on a de notre enfance, ils sont mélangés, ils sont déformés. Et quand je raconte des choses avec mes frères et sœurs et qu'on compare ce qu'on a vécu, on les a déjà pas vécu de la même manière. Et puis surtout, la temporalité du souvenir, l'action du souvenir, elle n'est pas du tout focalisée au même endroit. Donc, quand on essaye de se rappeler de certaines choses, tout est déformé et c'est souvent très très loin de ce qui s'est vraiment passé.
Même si ce spectacle traite de l'enfance, s'adresse-t-il seulement à un public jeunesse ?
Non, justement. C'est un spectacle tout public et c'est aussi la volonté de la compagnie de faire toujours des spectacles tout public qui sont autant dédiés aux adultes qu'aux enfants, qui sont accessibles aux deux. Et notamment pour ce spectacle qui traite effectivement de l'enfance, en fait, il est même plus dédié aux adultes qu'aux enfants en soi. Après, il y a des scènes qui sont avec de la marionnette, avec du clown, qui sont forcément, on va dire, plus dédiées aux enfants dans le côté divertissant, etc. Mais il y a aussi énormément de questions qui peuvent intéresser les adultes et dans lesquelles ils vont se reconnaître dans cet aspect nostalgique de ce qu'ils ont vécu. Et donc c'est un spectacle, il faut absolument y aller en famille pour pouvoir justement discuter de ce que ce spectacle raconte et comparer aussi entre l'adulte et ce qu'il a vécu et l'enfance qu'il vit. Et discuter en famille après le spectacle, ce serait super, enfin, ce serait ça l'idéal.
Ton spectacle, c'est un spectacle musical, théâtral, chorégraphique, mêlant également marionnettes et arts plastiques. Pourquoi attacher tant d'importance à la pluridisciplinarité dans cette pièce ?
C'est un spectacle qui permet effectivement de mélanger les arts parce qu'il ne raconte pas une histoire de A à Z, on ne suit pas un personnage du début jusqu'à la fin. C'est une succession de scènes, de scénettes, d'histoires qui... Des fois, il y a des scènes qui reviennent dans le spectacle, mais il n'y a pas de ligne directrice. Et donc, je me suis dit que tous ces tableaux pouvaient être vraiment illustrés de plein de manières différentes, et notamment qu'il y a des choses que la marionnette va raconter peut-être de manière plus subtile, plus intéressante, plus imaginaire justement qu'un acteur sur scène. Il y a aussi la musique qui a une place vraiment, pour le coup, essentielle. La musique et le théâtre, c'est vraiment, enfin, c'est à la fois un spectacle, concert, enfin, théâtre et musique en même temps, parce que la musique, elle raconte énormément de choses et elle procure énormément d'émotions. Et souvent, ce qui se passe dans ce spectacle, il y a une scène où un des comédiens va raconter quelque chose et la musique va être en fond et tout à coup, la musique va passer au-dessus pour raconter à son tour la suite de l'histoire sans forcément que les comédiens parlent. Et cet aspect pluridisciplinaire, il est essentiel aussi pour parler de l'enfance parce qu'un enfant, ça grandit avec plein de médiums, plein de manières de se construire. Ça peut autant parler avec son corps quand il ne connaît pas encore les mots, donc forcément il va utiliser d'abord les gestes, les cris ou le dessin aussi. Et tout ça, ça doit forcément être... Si on parle de l'enfance, il y a forcément un peu de tous les arts mélangés sur scène.
Tu l'as un peu dit en évoquant les différents tableaux successifs qui font partie du spectacle, mais comment et par quel procédé sont évoqués les souvenirs d'enfance au plateau pendant le spectacle ?
Alors, il y a plusieurs scènes, donc plusieurs techniques. Il y a une scène, par exemple, qu'on n'a pas écrit, qui est un extrait de à la recherche du temps perdu de Proust, qui est très connu. Hein. Tout ce moment où il croque dans la Madeleine et il se rappelle de la ville de Combray qui apparaît sous ses yeux et de tous ses souvenirs d'enfance. Donc, il y a cet extrait-là. Et il y a surtout... une scène qui revient trois fois dans le spectacle, qui est une histoire de frères et sœurs, ça s'appelle comme ça cette scène. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que c'est quatre frères et sœurs qui vont discuter de choses qu'ils ont vécues. Et scéniquement, il se passe rien, c'est juste quatre corps fixes qui discutent. Et c'est tout ce truc de « Ok, moi, dans mon souvenir, il s'est passé ça, maman, elle est arrivée à ce moment-là, et toi, t'as réagi comme ça. » Et l'autre va dire « Alors, attends, parce que moi, j'ai réagi comme ça, parce que tu m'as poussé à bout par rapport à ça. » Et ils vont essayer de se rappeler de ce qu'ils ont vécu, et d'ailleurs, ne pas être d'accord, en général, sur la manière dont ils ont vécu les choses. Et aussi se trouver des excuses sur pourquoi ils ont réagi comme ça, enfant. Pour eux, ça leur semblait légitime de réagir comme ça. Et pourtant, c'était peut-être injuste pour eux, pour les autres. Il y a aussi une autre scène où c'est un enfant qui va se souvenir de moments privilégiés avec sa mère et notamment toute une scène sur que les deux allaient se mettre devant la télé pour regarder un film le soir et partager ce moment ensemble. Et en fait, on va avoir tout un extrait, tout un medley d'extraits de films qui vont se voir sur scène. Et du coup, c'est le souvenir de ce moment est partagé avec le souvenir du film qu'ils sont en train de voir.
Et concrètement, au plateau, avec les scénographes Bénédicte Huet et Pauline Rouet, comment elles ont traduit tes envies de metteuse en scène ?
Il faut se rappeler qu'au tout début de cette création, il n'y avait pas de texte. Donc j'ai réuni toute une équipe, dont deux scénographes, effectivement, autour d'une résidence. On est parti une semaine vivre ensemble et on a échangé sur la thématique de l'imaginaire de l'enfance et du souvenir. Et on a fait plein de tests. On a fait des improvisations, de la manipulation de marionnettes, des initiations, des temps plastiques. Et il y a eu déjà, à ce moment-là, dans cette résidence, des scènes qui sont créées et qui sont encore là, même si elles ont beaucoup changé. Et donc, les scénographes, dès le début de la création, elles ont amené leurs idées. Après, quand les choses se sont fixées, que j'ai écrit le texte, j'ai pu leur faire une commande plus précise. Et elles se sont mises à deux. Donc, elles sont à Nantes et le reste de la compagnie est à Rennes. Donc, ça a été un peu compliqué. Des fois, j'allais à Nantes ou elles venaient à Rennes pendant des résidences pour construire un peu tout ça. Et on était constamment en communication. C'est-à-dire que plus je travaillais la scène avec les acteurs d'un côté, et plus j'allais les voir en leur disant « Bah voilà, en fait, on a changé telle chose sur cette scène, donc je vais absolument avoir besoin de tel décor. » Et la scénographie est pensée comme une énorme machine qui s'active, il y a un bouton, et du coup, tout s'active. Cette scène, elle se passe là, et elle fait partie intégrante de la machine, même si on focalise sur cet endroit de la machine. Et donc, c'était plus simple aussi pour elle d'avoir une unité dans la scénographie qui bouge à peine, qui est très peu en évolution, qui est toujours là sur le plateau. Il n'y a pas de changement de décor, etc. Mais de composer tous les éléments de scéno dans une même grosse scéno.
Est-ce que tu peux expliquer un peu le processus qui consiste à faire de l'écriture plateau et à en ressortir un texte fixe aujourd'hui ?
J'imagine que le processus est différent pour toutes les compagnies qui fonctionnent comme ça. Je sais que nous, on a trouvé un équilibre dans ce long temps de résidence où toute l'équipe est là pour proposer des idées, donc sous forme d'ateliers, d'initiation, etc. Et moi, j'ai vraiment eu un deuxième temps avec donc toute cette matière qui était accumulée, que ce soit des vidéos ou même des textes qui avaient été écrits. Et j'ai vraiment pris le temps de réunir ça, de penser tout ça, pour que ça fasse un texte, on va dire, unifié. Alors, j'ai un peu triché, parce que si j'avais voulu raconter une histoire avec un personnage qui vit son histoire de A à Z, je pense que j'aurais eu des problèmes pour pouvoir mettre toute cette matière-là dans un spectacle. Mais en tout cas, comme je n'avais pas cette volonté d'avoir une histoire et d'avoir plein de petites histoires, c'était beaucoup plus facile pour amener tout ce qu'ils ont, pour pouvoir réunir tout ce qu'ils ont amené. Et après, je leur ai présenté donc ces scènes, ces textes. Et on a eu un vrai temps de discussion après coup, en mode « Ah ouais, bah cette scène-là, c'est très bien. Moi, j'y verrais bien à la place de cette phrase, une phrase un peu différente. » Et donc, du coup, j'ai aussi adapté aussi en fonction de ce qu'eux y voyaient, puisque vu que le texte partait d'eux, il y avait forcément aussi d'eux dans la suite de la création. Et il faut savoir que c'est un texte qui est encore constamment en évolution. Il n'est pas fixe du tout. Même encore ce week-end, on a fait 2 jours de travail. On joue vendredi. Et j'ai encore voulu changer des choses. Alors bon, l'équipe me dit, bon voilà, on joue bientôt. C'est un petit peu compliqué de changer tout au dernier moment. Mais c'est comme ça, c'est un texte, c'est une création. C'est un texte qui doit évoluer et qui bougera encore après la première représentation. Et parce que aussi, comme il y a des extraits de texte qui partent aussi de mon vécu, et ben mon avis change aussi sur ce que j'ai vécu.
C'est ce que je constate en fait depuis le début de l'interview qu'on fait tous les deux là. C'est que, en plus du fait que tu es très occupé parce que c'est les répétitions, les dernières répétitions, bientôt la création, ce vendredi, on sent que tu es un peu sur les rotules, etc. Un petit peu stressé par l'échéance qui va arriver. Et en même temps, on se dit aussi, enfin, en t'écoutant en tout cas, que c'est quelque chose de très personnel, ce spectacle. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu as peur d'en parler ou tu as du mal d'en parler.
C'est vrai. C'est à la base, ce spectacle, je savais qu'il allait parler de sujets très sensibles sur mon enfance aussi. de thématiques qu'il fallait enfin que je me confronte. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai peur de le présenter à un public. Mais comme comme les comédiens s'en sont, et les musiciens pardon, s'en sont emparés et on en fait complètement autre chose que ce qui s'est vraiment passé dans ma vie, j'ai confiance en eux et je sais que ça va être déformé de la bonne manière. Et je suis contente. En vrai, je suis très contente de cette première représentation qui arrive vendredi et j'ai hâte. Et je suis stressée parce que je dois finir 2-3 petits trucs, mais tout va bien. J'espère qu'il y aura plein de monde. C'est une super salle pour faire une première représentation. J'ai hâte.
Et du coup, c'est une tradition dans Tonnerre de Brest. Nous demandons aux artistes quelle musique pourrait bien illustrer leur spectacle. Tu n'échapperas pas à la règle, Juliette. Sur quoi s'est porté ton choix musical aujourd'hui? Et si tu veux nous expliquer pourquoi aussi.
Je propose qu'on écoute Mickey 3D avec sa musique « Demain finira bien » parce que c'est une musique qui est jouée dans le spectacle et qui représente assez bien cet esprit de l'enfance détaché de « je vis tel moment et je repense pas à ce que je vis, j'y repenserai plus tard quand je serai grand, peut-être que je pourrais parler de mes traumatismes et du fait que je suis pas bien, mais là maintenant je vis mon enfance et je me pose pas de questions et demain finira bien. »
Je préfère pas réfléchir que me demander des trucs aussi cons. Non mais attends, tu sais qu'il y a encore plein d'années à vivre sur la Terre et toi quand tu y seras plus, tu te demandes rien alors.
Ça va très bien, ça continuera comme ça a commencé il y a longtemps et voilà, c'est tout.
Est-ce que demain finira bien? J'ai que 10 ans, je n'en sais rien. Est-ce que les gens qui tirent sur les oiseaux ont-ils quelque chose dans leur cerveau? Je ne sais pas, je m'en fous. Il ferait mieux d'aller tous boire un coup. Et si la nuit, les chats sont gris, est-ce que les petits poissons rouges? Est-ce que les gens qui dorment tout le temps ont-ils l'impression d'être vivants? Est-ce que les gens qui vivent tout nus ont-ils un poil dans la main? Je ne sais pas, je m'en fous. On ferait mieux d'aller tous boire un coup. Et si la nuit, les chats sont gris, est-ce que les petits poissons rouges?
Mickey 3D avec le morceau « Demain finira bien ». Nous sommes toujours dans Tonnerre de Brecht sur Syllab. Merci Juliette de m'avoir reçu pour répondre à toutes mes questions. On se retrouve donc demain à 19h30 au Zéphyr de Château-Giron pour la représentation du spectacle « Ça n'existe pas ».
On remercie également Adèle pour la réalisation de cette émission.
Et oui, puisque c'est déjà la fin.
Oh, mais on se retrouve quand même la semaine prochaine à 19h sur Syllab.
En attendant, prenez soin de vous.
Et des bisous.
Des bisous.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.